Bardo, Éric Bataillon.
Bonjour, c'est un témoignage rare et à haut risque que Nermat El Matari a recueilli dans son émission « La vie et les gens » sur Monte Carlo d'Oualia, celui d'une femme qui habite en Syrie, à Raqqa, fief de Daesh, le groupe État islamique. Autre témoignage, celui de Yael Armanet, une franco-israélienne très engagée dans le dialogue israélo-palestinien. Elle porte un regard plutôt sévère sur les gouvernements qui se sont succédés ces 10 dernières années en Israël. Autre témoignage, ceux que les journalistes des observateurs de France 24 ont recueillis, ils nous emmèneront à Kaboul et en Irak. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
سيطرت بشكل كامل هم بلشوا فرضوا لباس اللي هو العباية الفضفاضة الطويلة بالإضافة للنقاب طبعاً هم من البداية كان بدهم الكل يتحجب.
La voix que nous entendons, c'est la voix d'une femme qui habite en Syrie, dans une ville emblématique qui est Raqqa, la ville qui a été choisie comme capitale, si l'on peut dire, par le groupe État islamique que l'on appelle Daesh, dont vous avez accueilli le témoignage dans votre émission, Nermat El Matari, bonjour.
Bonjour.
Donc cette femme témoigne sur la situation sous l'emprise de Daesh.
Oui, situation très 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 difficile, on ne peut même pas imaginer que ça existe. Quand j'ai parlé avec cette femme, je communique avec elle depuis quelques semaines. Mais pour le persuader vraiment de nous parler, c'était très difficile. On n'a contacté pas par téléphone. On a utilisé d'autres méthodes pour le voir. Et elle nous a parlé comment elle vit les femmes. Elle subit. C'est qu'est-ce qu'elles font maintenant, les femmes, là-bas. Il n'y a pas d'éducation. Elles ne peuvent pas circuler. Sauf avec un tuteur, entre guillemets. Elles ne peuvent pas voyager. Sauf les femmes plus que 65 ans. Et s'il est malade, l'éducation avant, c'était toléré. Quand ils ont commencé l'entrée à Raqqa. Mais la maîtresse, elle était habillée avec un niqab. Et l'étudiante aussi, ils étaient aussi avec niqab et avec cette façon de s'habiller. Ils ont obligé toutes les femmes à s'habiller comme ça. Et s'ils s'habillent comme ça, ça veut dire que tu ne le vois pas quand elles marchent dans la rue avec son tuteur. Ils sont lapidés devant tout le monde. Et pour tout le monde, pour te dire, ce n'est pas que pour les Arabes musulmans ou les Syriens musulmans, c'est pour tout le monde, chrétiens, musulmans, ils ont la même façon de s'habiller.
Est-ce que les membres de ce groupe armé sont des gens locaux, des Syriens de la région de Raqqa ou viennent-ils d'ailleurs?
99% ils viennent d'ailleurs et même pas de pays arabes juste. Ils sont de Yémen, Arabie Saoudite, mais plus Tunis, Maghreb, Libye, Maroc, l'Algérie, tous ces pays-là.
Et l'Europe.
Et l'Europe. Beaucoup, beaucoup de Français avec leurs familles, leurs enfants, imaginons, avec les enfants de 2 mois, de 2 ans, de Canada, des États-Unis. Et je posais la question, est-ce qu'ils sont vraiment des Arabes d'origine arabe, Français d'origine arabe ou des Américains d'origine arabe? Il y a ça et il y a de vrais, ça veut dire de souche.
Cette personne que vous avez eue au micro, est-ce qu'elle a peur?
Très peur. Elle ne vit pas. Elle oblige même quelquefois les filles qui ne sont pas mariées de se marier avec ces gens-là qui viennent de l'étranger. Et il y a 2 femmes qui sont suicidées parce qu'elles étaient obligées de se marier avec ces gens-là. Il n'y a pas d'éducation, comme je vous ai dit. Tout au début, il y avait un petit peu d'éducation, mais les femmes, il n'est pas interdit d'étudier, il est interdit de travailler, il est interdit de sortir. Sauf pour les urgences, sinon elles restent chez elles. Et pour vous dire même, ils ont amené leurs femmes avec eux, ces gens-là de Daesh. Ils ont amené leurs femmes et c'est eux qui sont plus durs que les hommes. Elle m'a expliqué, une fois elle marchait dans la rue, il y avait une femme de Daesh avec un mitraillette, son bébé dans l'autre main et il avait l'explosif à la ceinture. Et à la fin, je lui ai dit, mais vous êtes syrien, vous habitez chez vous. Comment vous sentez? Elle m'a dit, je ne suis pas chez moi, je suis dans un prison. Je suis morte, vivante. Même les animaux sont mieux que moi.
Merci Nermat El Matari. Je renvoie à ce témoignage tout à fait exceptionnel que vous avez diffusé dans votre émission Hayat Ho'anas, ce qui veut dire la vie et les gens sur Monte Carlo d'Oualia. Merci.
Merci.
L'architecte israélien Dov Shornobroda était très impliqué dans le dialogue israélo-palestinien. En 2002, il était victime d'un attentat aveugle dans un restaurant près d'Haïfa. 13 ans plus tard, sa compagne, Yael Armanet, a raconté dans un livre comment elle avait fini par rencontrer la famille du jeune kamikaze, auteur de l'attentat. Cette militante du dialogue regarde avec espoir et une certaine appréhension le scrutin législatif de mardi prochain en Israël.
Vous savez, mon livre se termine avec un chapitre que j'ai appelé « Esperanza ». Je cherche désespérément, ou parfois d'une manière un peu plus optimiste, ça dépend des périodes, des raisons d'espérer. En Israël, actuellement, on est dans une impasse terrible. On est au banc des nations, on est au bord du précipice. C'est pas la première fois, mais ça commence à bien faire. Il y a quand même des pourparlers de paix qui avaient commencé. Il y a eu des processus de paix qui ont eu lieu. On a eu la paix avec Sadat, on a eu la paix avec le roi Hussein de Jordanie. Des hommes de paix existent, j'en suis persuadée, aussi bien en Israël que dans les pays arabes avoisinants. Il y a des gouvernants modérés, il y a des désirs de démocratie. On voit comment, par exemple, l'Égypte est en train de faire des bouleversements très importants, justement, pour que la population, d'abord, n'ait plus faim. Parce qu'il s'agit aussi de questions économiques et sociales qui sont sur le tapis. Donc j'espère beaucoup, beaucoup, mais je suis pas du tout sûre, c'est pas du tout gagné, que le parti dans lequel je suis militante, le parti travailliste, qui est le parti de Tzipi Livni, qui est le parti de Yitzhak Herzog, va pouvoir remporter ces élections, parce que 9 ans de gouvernement de Bibi Netanyahu qui entretient la peur, je vous assure que ça n'est pas viable.
Un mot de tous ces Français de confession juive qui, depuis un an ou deux, et plus particulièrement depuis les attentats de Paris en janvier, vont en Israël, font leur alia, leur retour, comme on dit en Israël, sur la terre d'Israël. Ces gens-là, ils vont voter comment ? Est-ce que vous avez une idée ?
La plupart sont des personnes qui ne veulent pas du tout entendre parler d'un État palestinien, qui ne veulent pas du tout entendre parler d'un processus de paix. Je réponds à votre question aussi dans la dimension de monter en Israël. Je suis venue vivre en Israël à l'âge de 26 ans par choix. Évidemment, j'ai gardé ma nationalité française, j'ai la double nationalité. Je pensais, si je ne m'intègre pas, j'ai quand même changé 4 fois de métier, j'étais venue avec des diplômes universitaires, je me suis adaptée à la réalité professionnelle israélienne, enfin au métier dont on avait besoin en Israël. Je crains qu'une alia qui se fait par fuite, par peur, risque de se retourner contre les personnes qui font ce cheminement par peur. L'alia doit être un choix, ne doit pas être une fuite. Et malheureusement, les statistiques le prouvent, beaucoup de Français qui sont venus s'installer en Israël reviennent en France après quelques années, après 3 ans, justement parce qu'ils n'ont pas réussi à s'intégrer professionnellement, ou l'angoisse, on va dire, sécuritaire est beaucoup trop lourde, ou leurs enfants, par exemple, voyant qu'ils doivent faire 3 ans d'armée pour les garçons, 2 ans d'armée pour les filles, préfèrent aller faire leurs études universitaires tranquillement dès l'âge de 18 ans en France. Il y a quand même une difficulté en Israël qui n'est pas négligeable, si vous voulez, qui est objective. Et l'intégration n'est pas assurée. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Et le vote à droite est malheureusement très courant.
Yael Armanet est l'auteur de « Haïfa, Jénine après le silence » publié par les éditions Le Passeur. Orphanland est un groupe israélien de folk metal oriental très engagé dans le dialogue politique avec des groupes palestiniens comme Halas. Voici un titre qui l'illustre parfaitement, « Let the truth be known », extrait de l'album « All is one ». Orphanland sera en concert en Israël, dans la baie d'Haïfa, à Saint-Jean-d'Acre, le 26 mars, puis viendra en Europe. Le groupe sera à Paris, au Bataclan, le 14 avril, et à Strasbourg, le 15.
Orient Hebdo sur RFI.
Les observateurs de France 24 nous envoient chaque jour, tout au long de l'année, leurs informations insolites, humoristiques, décalées ou révoltées, c'est selon. Bonjour Anissa Jalab.
Bonjour Eric.
Vous êtes l'une des journalistes qui collecte ces informations et comme chaque mois, vous en avez sélectionné pour Orient Hebdo. Pour commencer, cette performance d'une jeune Afghane qui a traversé Kaboul en armure.
Elle s'appelle Kubra Kademi, c'est une artiste afghane. Et pour dénoncer les harcèlements sexuels que les femmes subissent de manière quotidienne en Afghanistan, elle a décidé de protester à sa manière, c'est-à-dire avec une armure, histoire de dire « aujourd'hui, vous ne me toucherez pas ». Une initiative courageuse qui n'a pas plu à tout le monde. Sa marche était censée durer 10 minutes, mais elle s'est vue écourtée à 8, tellement ça devenait dangereux pour elle. Elle a confié qu'elle avait même peur de se faire tuer par la foule qui la suivait. Les hommes lui jetaient des pierres, et ce sont ses amis et les journalistes qui ont tenté de s'interposer entre elle et ses agresseurs qui n'ont pas manqué de tenter des attouchements auprès de ses amis. Elle nous a livré tout cela le temps d'un témoignage vraiment poignant. Elle a raconté le quotidien des femmes en Afghanistan et manifestement, ce n'est pas nouveau. Elle explique même que ce dont raffolaient beaucoup d'hommes était de pincer les femmes. Les pincements sont tellement forts qu'ils laisseraient des bleus. Elle justifie ses comportements par le règne des talibans, suivi par les 13 ans de guerre qui ont détruit leurs valeurs et leur culture. Elle pense donc que la montée de l'extrémisme et de la violence ont généré des frustrations qui expliquent ces actes obscènes.
Autre sujet d'intérêt pour les observateurs, la situation des gitans en Irak. Il y en a et leurs conditions de vie sont plutôt dramatiques.
En effet, il y a bel et bien des gitans en Irak. Là-bas, ils sont privés de travail, ils n'ont pas accès à l'éducation et leur culture est complètement méprisée. Les gitans font partie des minorités les plus marginalisées d'Irak. Ils seraient entre 50 et 200 000 habitants et notre observateur Tahsin s'est rendu dans un des villages gitans complètement coupé du reste du pays à 200 km du sud de Bagdad. Il nous a expliqué les conditions déplorables dans lesquelles vivent ces gitans. Il n'y a pas d'eau potable. Chaque semaine, des camions-citernes ramènent 200 litres. Mais comme c'est peu, il arrive que l'eau soit réutilisée plusieurs fois, ce qui pose donc des problèmes d'hygiène. À côté de ça, une décharge a été installée il y a quelques années. Du coup, des maladies telles que l'asthme et la typhoïde se sont propagées. Notre observateur nous explique également que les 400 enfants sont illettrés, car il n'y a aucune école. Le village est surveillé par les forces de l'ordre, qui empêchent parfois l'entrée de visiteurs. Ces gitans se considèrent comme étant des vrais Irakiens et pensent qu'ils sont marginalisés pour aucune raison valable.
Merci Anissa Jalab.
Merci à vous.
Je rappelle l'adresse des observateurs de France 24, observers.france24.com.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, en Israël, c'est la dernière ligne droite avant les élections de mardi prochain.
Ce n'est pas la fin, mais plutôt bien le commencement, titre Haaretz, qui prend parti ouvertement contre Netanyahou. Le quotidien libéral publie son éditorial sous le titre « Le temps du changement ». Il y a de bonnes chances, écrit-il, de faire tomber le régime de droite et de ramener Israël sur la voie de la modération politique et de l'intégration sociale. Ne laissons pas échapper cette chance, conclut l'éditorialiste. Le Premier ministre lui-même accorde une série d'interviews pour la première fois depuis le début de la campagne électorale. « Si vous ne votez pas Likoud », affirme-t-il au journal proche de son parti Israël Hayom, « la gauche pourrait bien prendre les rênes du pouvoir ». A signaler que ce week-end est distribué en Israël à 500 000 d'exemplaires, une parodie du journal gratuit. Au lieu d'Israël aujourd'hui, son titre est « Israël demain ». On y voit une photo du Premier ministre avec ce titre « On se sépare de Netanyahou ». Autre titre de la presse, Netanyahou passe de tout puissant à carrément à la farce. Yedioth Ahronoth fait remarquer que même les amis de Netanyahou le quittent. C'est le cas notamment de Dan Meridor, ancien ministre de son gouvernement. Et puis selon Mariv, les services de sécurité ont renforcé la protection rapprochée d'Yitzhak Herzog, le chef de l'opposition, qui circule désormais en voiture blindée.
Le signe que les tensions sont fortes en Israël. Et donc Michel, les derniers sondages sont autorisés à la publication.
Oui, selon un sondage Mariv, 72% des Israéliens pensent qu'un changement est nécessaire. Selon tous les sondages, l'écart entre les deux principaux partis s'est encore creusé. En faveur de l'Union sioniste de centre-gauche, 25 sièges à 21 selon les uns, 26 à 22 pour les autres. Mais le bloc des partis de droite est toujours en tête, c'est-à-dire que s'il est désigné par le président, eh bien il sera plus facile pour Netanyahou de former un gouvernement que pour son adversaire. Et puis Eric, selon les sondages, l'économie passe avant le sécuritaire, la cherté de la vie avant le dossier nucléaire iranien.
Alexandre, ce ne sont pas ces élections qui intéressent la presse panarabe, mais plutôt l'Irak et la crainte d'une épuration ethnique anti-sunnite. Expliquez-nous.
Alors, il faut d'abord préciser qu'en dehors de quelques rares exceptions, la presse arabe est pro-sunnite et elle est très méfiante à l'égard des chiites, pour ne pas dire anti-chiites. Alors, les commentaires des journaux sont suscités par les progrès qui sont enregistrés par l'armée irakienne dans la province de Salahuddin et sa capitale Tikrit, qui était tombée entre les mains du groupe État islamique. Alors, ce que craignent les éditorialistes, ce sont surtout les milices chiites qui accompagnent l'armée irakienne, ainsi que les gardiens de la révolution iranienne qui eux aussi font partie en quelque sorte de ces milices. Alors selon plusieurs journaux arabes, des membres de ces milices se sont livrés à des exactions contre des habitants de la province sunnite sous prétexte qu'ils ont soutenu les djihadistes de l'État islamique. Mais pour des journaux irakiens plus proches des chiites, sans l'apport de ces milices et le soutien iranien, Bagdad serait tombé entre les mains de l'État islamique. Et pour eux, les accusations d'exaction sont le fruit de la propagande américaine.
En revanche, un regain d'optimisme à propos de Gaza, Alexandre, c'est le constat de plusieurs journaux arabes qui s'en expliquent.
Oui, alors la principale raison, selon ces journaux, qui citent des responsables du mouvement islamiste Hamas, un récent rapprochement avec l'Égypte. Alors les autorités égyptiennes ont en effet fait appel de la décision de justice qui considérait le Hamas comme organisation terroriste et, selon des journaux égyptiens, des négociations auraient eu lieu entre le Caire et l'organisation islamiste qui contrôle Gaza pour un modus vivendi qui a été atteint. Alors le Hamas, selon ce modus vivendi, empêche tout soutien logistique aux djihadistes du Sinaï égyptien par le biais des tunnels qui viennent de Gaza et le Caire, en contrepartie, laisse passer l'aide qatarienne pour la reconstruction de la bande palestinienne.
Michel Paul, hors élection, d'autres sujets sont évoqués par la presse israélienne.
Notamment la construction d'une nouvelle barrière de sécurité, cette fois le long de la frontière avec la Jordanie, dans un premier stade sur un tronçon de 30 km dans le sud du pays. Le but d'opération est d'empêcher les infiltrations de djihadistes et selon la presse, Israël craint également des infiltrations de militants de l'État islamique à partir de la péninsule du Sinaï.
Alexandre, le sommet économique de Sharm el-Sheikh en Égypte jouit d'une large couverture de la presse arabe et surtout Kairote.
Oui, si l'on en croit la plupart des journaux du Caire, la conférence économique de Sharm el-Sheikh va relancer l'économie égyptienne actuellement en grande difficulté. Alors il souligne que le gouvernement proposera des projets aux investisseurs pour près de 60 milliards de dollars, mais la presse arabe est plus réservée. Elle évoque la possibilité de nouveaux investissements d'un montant de 10 milliards de dollars.
Également, le sort des femmes journalistes arabes intéresse le journal Al-Quds Al-Arabi.
Oui, le journal cite notamment le cas de la journaliste libanaise Rima Karki sur la chaîne Al Jadid, qui a été agressée verbalement par un islamiste qu'elle interviewait en duplex et qui la somme de la boucler. La journaliste a interrompu l'interview en indiquant qu'elle ne pouvait pas poursuivre si le respect n'était pas mutuel. Alors cet accrochage, dont la vidéo circule sur YouTube, n'est pas le seul, souligne le journal, et il précise que les présentatrices sont souvent agressées verbalement par les hommes de religion islamiste qui n'acceptent pas d'être interrogés par des femmes.
Pour conclure, pas de photo du jour, Michel, mais des caricaturistes qui s'en donnent à cœur joie.
Oui, ce sont des portraits sous forme de caricatures des chefs de liste pour les élections de mardi prochain, avec les initiales qui figurent sur les bulletins de vote. Rappelons que le système électoral en Israël, c'est la proportionnelle de liste.
Merci Michel, merci Alexandre, à la réalisation François Porcheron. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.
Littérature sans frontières.